Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Aucun d'entre nous n'est étudiant, dans la mesure où les études ne constituent pas un aspect de notre vie assez important pour pouvoir nous définir. Pourtant, certains d'entre nous suivent des cours à l'école ou à l'université. Aucun d'entre nous n'est ouvrier, dans la mesure où ce n'est pas un lieu de travail ou un métier particulier qui nous permet de nous revendiquer comme tels. Souvent, nous sommes, comme presque toute notre génération, chômeurs, quand nous ne sommes pas occupés par une activité absurde qui ne produit rien de bien intéressant ou d'utile, quel que soit le critère. Ce qui est certain, c'est que nous sommes tous mis au travail, mobilisés, pendant ou au-delà de l'horaire de travail. Si d'un côté nous avons l'impression de ne servir à rien, d'être une partie superflue de l'humanité, intégralement remplaçable et éventuellement sacrifiable, de l'autre côté, nous nous rendons compte que la métropole ne pourrait pas continuer à aller de l'avant sans ces êtres humains qui semblent lui servir de carburant. Que ce soit nos bras, occupés à faire disparaître la merde produite par ceux qui sont trop riches pour s'abaisser et la nettoyer tout seuls, que ce soit notre langue, occupée à harceler nos semblables au téléphone pour les forcer à acheter des affaires qui les rendra encore plus étrangers à eux-mêmes, ou que ce soit simplement notre temps, perdu dans un travail dont la finalité nous échappe complètement. Ce par quoi notre patron est intéressé chez nous ne nous importe pas. Il pourrait également le trouver chez quelqu'un d'autre et finira un jour ou l'autre par le trouver dans un mécanisme. On vient à se demander si le travail sert en fin de compte à produire quelque chose, ou si ce qui se présente comme production de richesse a comme première finalité de nous maintenir au travail, de sorte à n'avoir ni temps ni énergie pour faire autre chose. Comme si cette autre chose faisait trembler la société. La même chose vaut pour l'école, où nous avons plus l'impression d'être surveillés que d'apprendre quelque chose. En considérant le destin de notre existence, la mise en valeur totale de l'énergie et la discipline impitoyable à laquelle elle est soumise, les régions entières plongées dans la fumée et illuminées par les cimetières, les villes où s'accumulent des millions d'êtres, nous sentons avec consternation qu'il n'y a désormais plus aucun atome étranger au travail et que nous sommes tous voués à ce processus frénétique. L'aspect le plus important de cette mobilisation totale n'est pas celui technique, mais celui de la disponibilité à être mobilisé. Le champ de bataille est donc notre propre existence. C'est pour ça que s'invente, souterrainement, partout dans le monde, la grève métropolitaine.
Salut, bienvenue dans Vacarme en Réunion.
Salut.
On est content de vous accueillir sur les ondes du 92.2 pour cette nouvelle émission. On sort tout juste, en fait, il y a quelques jours, c'était avant-hier, on est allé voir une projection d'un film qui s'appelle
Comme des lions.
Comme des lions. de Françoise Davis et qui raconte la lutte qu'il y a eu en 2014 à Aulnay-sous-Bois dans les locaux de PSA Peugeot, enfin en fait voilà à l'usine de Peugeot d'Aulnay-sous-Bois qui a fermé depuis, mais voilà ça raconte la lutte depuis l'intérieur de ces gens qui se battaient contre la fermeture de leur usine et puis qui au final ont obtenu pas mal de choses mais pas ça, l'usine a quand même fermé. Voilà, on voulait...
Certains s'en souviennent un peu, ça avait fait pas mal de retentissement quand même dans les médias, parce qu'entre autres, on le voit dans le film, ils avaient colonisé un peu certaines réunions du PS, le MEDEF, etc.
Du ministère du Travail,
voilà, etc. De sorte à se faire entendre un petit peu. C'était des gens qui réclamaient la poursuite en fait, de leur usine en disant que Peugeot se faisait des bénéfices
des
extraordinaires, n'avait aucune raison de fermer cette usine. Et entre autres, ils avaient fait une grève qui était quand même assez dure. Ils avaient fait 4 mois de grève totale, où ils étaient 500 au départ à faire grève dans cette usine.
Et voilà, exactement. Alors ce qu'il y a, c'est que nous, on en a entendu parler en 2014, mais il y avait eu pas mal d'actualités autour de ça avant, parce que eux, pendant la campagne présidentielle, parce qu'en fait, eux, ils ont appris le plan de licenciement en 2012. Voilà, c'est un peu la particularité. En fait, finalement, le film montre un peu plus que les 4 mois... de lutte, mais voilà. Et c'était un film qui est assez bien réalisé. Et voilà, qui...
On a la bande-annonce, on peut vous faire écouter la bande-annonce de Comme des Lions, qu'on vous conseille, qui montre un certain aspect de la grève, qui n'est pas forcément celui dont on a envie aujourd'hui, nous, de parler, mais qui resitue quand même assez bien tout le combat syndical. Donc on peut écouter la bande-annonce.
Allez, on vous écoute.
Ce matin, est-ce que vous avez ordonné la poursuite de la grève aux vôtres ?
Tout d'abord, je n'ordonne rien du tout, c'est les salariés qui décident.
Bien sûr.
Vous en êtes fiers ?
Bien sûr, fiers de faire cette grève, c'est énormément de courage.
La contestation, Jean-Pierre Mercier, elle est utile, mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins.
Vous voyez, là, moi je vous ai répondu, et puis vous avez le dernier mot. Non, je dis ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça.
Dans une grève, ce qui compte, c'est qu'on trouve la solution et qu'on trouve le chemin ensemble.
Après le 6 mai, si les Français me choisissent, nous aurons rendez-vous.
La lutte, c'est bien souvent d'abord cette affaire dans la tête. Hein.
Pourquoi ? Pas très fatigué ?
En pleine forme.
Eux sont bêtes, nous on est intelligents. Pour moi, personnellement, on est plus intelligents qu'eux. Parce qu'ils nous arrivent à dire non !
Vous êtes l'État, bordel ! Vous avez quand même du poids !
Un message à Madame l'huissière. On n'est pas des gens de cité, hein. Premièrement, si vous pouvez aller nous consulter nos casiers judiciaires, tralala, c'est vierge. Ils sont vierges, madame. On est des ouvriers.
Ça fait partie de l'intimidation. Ça fait pas peur, mais ça énerve.
Voilà les accusations de la direction. Vous avez été reconnu en train de lancer un œuf à bout portant. Sous la violence du choc, il a chuté au sol.
C'est l'image de Monsieur le Président. Voilà, c'est l'image. Un minute, s'il vous plaît.
On sera toujours très gentil. On ne cassera jamais rien, on sera toujours très gentil. Et je peux vous assurer qu'on va les faire transpirer là-haut.
Ouais, ça commence à flipper à l'Élysée. Ah ouais. C'est le cabinet de Hollande qui appelle.
C'est à Roissy qu'il fallait aller.
Silence.
Ah, je vous entends très mal. Je suis dans le RER. C'est vrai en plus.
Ça va pas te rassurer.
Voilà, donc c'était la bande-annonce de ce film qui est effectivement assez joyeux, assez plein d'entrain. Et puis c'est ce qu'il raconte, quoi, cette lutte joyeuse et victorieuse en ce sens-là, quoi.
Donc nous, dans Vacarme en Réunion, on a rarement parlé de lutte syndicale et même du monde du travail parce que on a souvent l'impression que c'est des luttes qui font partie d'un temps un peu passé. Le grand moment du mouvement ouvrier, etc., est quand même un petit peu derrière nous. Et puis moi, quand je vois ce genre de film, ou quand j'entends encore certains syndicalistes parler dans les médias, moi, des fois, j'ai comme ça des mouvements où je me rends compte aussi de la force que ça portait, quoi, de la force de lutte de ces personnes, et puis de la justesse aussi à plein d'égards de leurs propos et des amitiés qui naissent dans ces moments-là.
C'est aussi des positions que nous, on incarne moins parce qu'on n'est pas à l'intérieur de ces endroits de production, de travail. C'est des positions qu'on habite un peu moins, finalement. C'est aussi pour ça qu'on qu'on n'en parle pas.
En tout cas, ça nous a donné envie aujourd'hui de reparler de la grève, de qu'est-ce que c'est que la grève. Et entre autres, le 25 janvier, il y aura la présentation aux tanneries d'un livre de l'Institut de démobilisation qui s'appelle « Thèse sur le concept de grève ». Et donc, on avait envie de s'appuyer sur cet ouvrage-là, qui présente en 19 thèses, je crois, comment on peut parler de la grève de plein de manières différentes.
La grève en tant que démobilisation, en tant que joie, en tant que... Enfin, voilà, on va entendre tout ça.
Exactement. Du coup, on va vous lire une grande partie de cet ouvrage. On a sélectionné plein d'extraits. Et puis, on avait envie d'illustrer ça aussi par des extraits d'un film de Carole Roussopoulos qu'elle avait fait sur la lutte des LIP à Besançon. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous savent très bien ce que c'est que cette histoire, mais donc les LIP, c'était des ouvriers de l'usine LIP qui fabriquait les montres. L'usine devait fermer, il devait y avoir un énorme plan de restructuration
ouais.
de l'usine. Et les ouvriers se sont mis en grève, et puis ensuite ils ont occupé leur usine, et puis ils ont relancé la production pour vendre eux-mêmes les montres pour se payer en gros leur caisse de grève. Quoi. Donc,
une forme de lutte un peu victorieuse dans le sens autogestion, dans le sens réappropriation de l'outil de production, etc., etc. Qui à la suite, dans les années 70, à la suite des années 70, voilà, s'inscrit complètement dans toute la critique qu'il peut y avoir des outils de production qui sont au patron, etc. Enfin, voilà, qui amorce.
Et qui était devenu un symbole quand même de la force ouvrière, de l'autogestion.
Ouais, avec un soutien à Besançon, qui est une ville ouvrière beaucoup plus que Dijon, etc. Avec un soutien populaire hyper large, des gens qui du coup se mettaient à acheter les montres, qui revendaient des montres. C'était pas que effectivement une grève centrée dans l'usine et sur les préoccupations de l'usine, mais puis c'est ce qu'on va entendre aussi, c'est que c'est c'est une grève qui vient toucher, bousculer les aspects de la vie qui sont plus les aspects qu'on pourrait penser comme des aspects privés, intimes, à l'intérieur à la fois des sphères, des cercles familiales, du couple, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas, comment on soutient les copains, etc., etc.
Exactement, voilà. Du coup vous pourrez entendre des extraits qui sont issus d'un petit film qui est peu diffusé, qu'on trouve difficilement, mais qui est de Carole Roussopoulos. Et puis vous entendrez aussi brièvement Xavier Mathieu dans des interventions sur des plateaux télé. Voilà, on vous laisse écouter tout ça.
Libre. Un conflit qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, a duré 128 jours, 128 jours pendant lesquels INF2 vous a tenu au courant de chaque péripétie. En fait, la firme LIP connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années. Le 17 avril, démission du directeur général, le tribunal de commerce de Besançon nomme deux administrateurs provisoires. Mais le personnel refuse catégoriquement tout licenciement ainsi que le démantèlement de l'entreprise. Apprenant que les salaires ne sont plus versés, le personnel occupe l'usine, 5 directeurs sont séquestrés puis relâchés le lendemain. Afin d'assurer un salaire de survie, le personnel fabrique des montres et les vend.
Thèse 1. La grève et démobilisation. Le capitalisme est une mobilisation infinie. La grève, en interrompant la production, la consommation des matériaux et le travail des hommes, met localement, si elle est locale, un terme à la mobilisation. Elle produit un référentiel immobile, depuis lequel la vitesse de mobilisation apparaît, aussi bien aux arrêtés, aux démobilisés, qu'aux mobilisés, qui jusque-là ne percevaient que des différences de vitesse. La grève, conçue, par exemple par le syndicat, comme mobilisation est donc un contresens. Les syndicats, entend-on, appellent à la mobilisation des salariés. Mais le gréviste mobilisé contre la loi L, mobilisé pour l'augmentation A, ne fait qu'ajouter à la mobilisation infinie sa mobilisation propre. Celle-là, infinie, avale celle-ci et s'en nourrit. Au contraire, le sens de la grève véritable et mythique est de réaliser la démobilisation. Très simplement, la grève commence par l'arrêt des machines et par l'arrêt du travail. Le débrayage n'est pas un moyen qui s'imposerait de l'extérieur pour permettre ensuite la mobilisation des travailleurs. But véritable. Le débrayage n'est pas un moyen pour laisser du temps pour la mobilisation, pour l'AG, la pétition, la manifestation de l'après-midi. Le débrayage a son but en lui-même, il est démobilisation. L'arrêt du travail, démobilisation, n'est pas au service de la manifestation, mobilisation. La grève mythique, comme démobilisation infinie, est la contestation de la mobilisation infinie.
Bon, on se trouve au chômage. Bon, je dois dire qu'on est très nombreux à... on n'est pas malheureux, mais tu vois, enfin, tant qu'on est payé, je suis d'accord. C'est d'argent qu'on a besoin, c'est pas de travail. De travailler imposé dans une usine, bon, je suis pas pressée que ça rouvre, hein, pour ça. Bon, je voudrais que ça ouvre à la dernière minute, à la fin, juste à la fin du chômage payé. Alors justement, on dirait que, bon, toujours pareil, les syndicats, quoi, ils veulent tellement arriver à prouver partout qu'on est très malheureux d'être sans travail, qu'ils veulent nous faire travailler pour pouvoir dire, vous voyez, les élites s'ennuient tellement du travail qu'ils travaillent quand même. Ils pourraient vivre sans travailler, aller à la plage, mais non, ils vont travailler. Moi, je dis que c'est pas vrai, d'ailleurs, ça ne veut pas marcher. Ça ne veut pas marcher, parce qu'on n'aime pas le boulot à ce point-là. Hein? C'est l'emploi qu'on a besoin, c'est d'un emploi pour vivre, parce qu'on n'a pas des revenus ou autre. Mais c'est pas du travail. Hein. Moi, je m'ennuie pas d'être au boulot, tu parles. Puis il y en a qui ont des boulots encore plus durs que moi. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui est sur une presse dans l'huile, avec un bruit comme ça, s'ennuie de son travail.
On n'a quand même pas besoin de 8 heures de travail par jour pour ne pas s'ennuyer.
Non.
C'est ce que j'ai apprécié. Quand j'ai travaillé à mi-temps, 2 mois et demi, à cause de ma santé, je travaillais à mi-temps. Et bien là, j'ai jamais tant apprécié... la vie, parce que je travaillais.
Oui, on avait bon travail avec les copains quand même.
Temps, en même temps, oui. J'avais l'honneur de travailler. J'avais les contacts avec les copains de l'IP. Puis en même temps, j'avais le temps de vivre chez moi, autrement, une autre vie. Vivre ou chez moi, faire ce que j'aurais envie de faire, ou d'aller en ville, ou de lire, ou de dormir. J'avais l'impression d'exister au moins, tu vois, d'être libre, et puis au moins d'exister pour quelque chose. Pas d'être un robot qui va le matin au boulot puis qui rentre le soir complètement vidé, comme je le racontais à la journée de la machine.
Et puis,
j'ai l'impression, moi, de plus être un robot, tu vois. D'être un petit peu, de contrôler un peu moi-même.
Souvent, on n'aime pas le travail qu'on fait. Donc, je vois, c'est fréquent, on me donne une lettre à faire, le directeur me donne une lettre à faire. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Il faut que je la tape. Ça me fait peut-être autant souffrir que si j'étais sur une machine avec du bruit. Ça m'énerve. Un tas de choses. Il y a des choses où on voit qu'ils sont en train d'entreprendre quelque chose qui est complètement ridicule, ou des choses qui sont soit contre les ouvriers ou même contre la vie en général. Des choses, je sais pas, contre l'écologie ou ça dépend le poste qu'on a. Eh bien, on n'est pas d'accord, on n'a pas le droit de le dire. Alors moi, quand je disais ça à mon directeur, il me disait, Monique, quand vous serez mon directeur, je vous obéirai et je vous commanderai. Voilà, tout ce qu'il trouve à répondre. Alors bon, il fallait que je continue à obéir. Alors, moi, le boulot, je l'aime pas. J'aime pas travailler. J'aime travailler des trucs qui me plaisent chez moi ou avec des amis dans un but.
Thèse numéro 2. La grève est intérieure. L'action intérieure commence par une démobilisation de l'intérieur et aboutit à la disparition de la frontière entre intérieur et extérieur. À Lippe, en 1973, tout Besançon défile dans les couloirs. Ainsi, ce que certains appellent, du nom de révolution, n'est pas une poussée de l'extérieur faisant basculer l'édifice, une manifestation qui en s'amplifiant prendrait l'Assemblée, l'Élysée, la Bastille, mais un affaissement intérieur. La grève intérieure est intense. Corollaire de la thèse numéro 2, la grève ne produit pas de violence. Parce qu'elle est intérieure, la grève n'a pas à s'emparer de quelque chose d'extérieur, non plus qu'à sortir d'elle-même. Dès lors, la violence, si elle survient, survient toujours depuis l'extérieur. Les hommes en armes, CRS, dépêchés par les préfectures, se massent à l'extérieur, autour de l'intérieur occupé. La grève se défendra depuis l'intérieur. Sa violence, possible, ne sera que la réponse à l'assaut extérieur. Sa violence ne lui sera imposée que comme défense intérieure d'elle-même contre le dehors. Cette violence sera évidente. La question de sa légitimité ne se posera plus en termes vides ou abstraits.
Je suis décidé à défendre mon bien. Mon bien, vous m'entendez?
C'est honteux.
Vous êtes ouvrier chez Lippe, vous? Je suis ouvrier chez Lippe, oui, j'ai pas peur de le dire.
Comment vous appelez-vous?
Bigeon Bernard.
C'est pas la peine.
Si, c'est la peine. Si, c'est la peine. Je suis décidé à défendre mon bien.
Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous nommer, monsieur, je pense.
Parce que, pardon ?
Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous nommer. Si parce que vous êtes nommé, vous avez des ennuis... Et...
Je m'en fiche. Je m'en fiche. Au point où on en est, on est prêt à prendre ses responsabilités.
Et t'as fait quoi de papa avec toi ?
Non, 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 j'ai pas d'autres copains, je suis seul.
Non, mais d'autres copains, d'autres ouvriers qui étaient hier soir dans la rue.
J'étais dans ma maison, dans mon bâtiment, et les CRS se cachaient derrière ma voiture et provoquaient les jeunes qui étaient en face. Ils n'ont rien à foutre de, à se cacher derrière les voitures pour provoquer les gens en face. Ils n'ont rien à foutre dans les bâtiments, ils n'ont qu'à rester à l'intérieur de chez Libre. S'ils défendent l'usine Libre, ils n'ont rien à foutre à l'intérieur de chez Libre.
Non, 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 dehors les CRS, dehors, dehors.
Ils n'ont rien à foutre. Qu'ils aillent dans leur caserne, qu'ils aillent
rien à faire là, c'est pas pareil.
Alors, on n'en sait rien, on voudrait bien imposer justement que la presse soit libre en France. Pourquoi ne dit-on pas que les CRS sont des provocateurs qui sont venus jeter des grenades offensives sur les cheminots qui étaient sous au dépôt? Pourquoi ne dit-on pas qu'à la cité Parc à Besançon, qui se trouve assez éloignée de l'usine Lip à Palante, on a jeté des grenades offensives? Pourquoi ne le dit-on jamais?
Et il y a eu des grenades lacrymogènes lancées dans des appartements, hein, lancées donc par les CRS, hein, qui ont éclaté dans les appartements. Et il y a eu, ces grenades ont même percé les volets. Alors voilà un peu ce qu'on lance sur soi-disant les dizaines de petits jeunes. Alors s'il y a vraiment que des dizaines de petits jeunes et que des milliers de flics leur lancent des gaz lacrymogènes, bah alors c'est encore plus honteux alors.
Combien de personnes il y avait hier soir dans la rue?
Oh, moi je dis au moins 3-4 000. Il y en avait partout dans toutes les villes d'Assas, il y en avait des quantités. Ouais, oh, les CRS, de toute façon, un CRS n'a pas à dire quoi que ce soit. Un CRS, c'est une machine à taper. Il n'a pas à penser et pas à prononcer des paroles.
Oui, c'est pas des hommes.
Je dis même une chose, en parlant de CRS encore. Les CRS, on devrait un jour protester que les CRS n'aient pas le droit de voter. C'est pas des hommes. Si c'est un gouvernement de droite qui leur dit de taper, ils tapent. Si c'est un gouvernement de gauche qui leur dit de taper, ils tapent. Donc ils ne pensent pas, donc ils ne réfléchissent pas, ils ont tout renié, ils n'ont pas à voter. C'est pas des hommes.
Thèse 3. La grève est le renversement des valeurs. Dans l'Antiquité, le travail est chose méprisée, laissée aux esclaves. Un citoyen ne s'y abaisse pas. Sa dignité l'appelle aux choses de l'action, à la politique, à quoi il ne peut se soustraire. De ces valeurs, les sociétés occidentales donnent l'exact opposé. Le citoyen se débarrasse de la charge de la politique en se donnant des représentants, pour pouvoir enfin s'adonner à temps plein au travail, lieu de sa jouissance et de son épanouissement. Autrement dit, de son malheur et de son exploitation, dans des activités professionnelles devenues en majorité nuisibles. Nuisibles aux hommes, à la nature, à la société. La politique est devenue l'affaire des spécialistes. Ceux-ci n'ont qu'à dire en effet « retournez au travail, nous prenons les affaires politiques en main ». Voilà pourquoi blesse la grève, qui dit « je laisse là le travail, le champ et la javel, je me réapproprie la politique délaissée ». Or, la philosophie politique a très bien accompagné cette évolution. Toute la philosophie politique depuis Platon cherche une évasion définitive de la politique. En faisant s'arrêter le travail et en replaçant les personnes dans l'action politique, la grève renverse les valeurs renversées. Elle restaure la hiérarchie antique. La grève est la politique de la politique morte.
Parce que les copains, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit « si vous parlez un mot français ou un mot politique, tu ne seras pas embauché ». Donc j'ai dit « je ne comprends rien ». Et après, il m'a dit « est-ce que... Et vous connaissez le syndicat ? » J'ai dit non, c'est quoi le syndicat ? Je ne connais pas. Donc le mec, il m'a fait plaisir des questions politiques. J'ai dit non, je ne connais pas. On n'a pas le droit de faire un accident de travail. On n'a pas le droit de tomber malade. On n'a pas le droit de parler politique. On n'a pas le droit de parler syndicat. On n'a pas le droit de revendiquer... par l'ARH, soit l'augmentation ou le coiff et tout. On est comme des bêtes, on est comme des esclaves, on travaille et voilà. Et c'est tout. On est là pour travailler, on n'est pas là pour faire la politique. Qu'est-ce que nous dit toujours ? Bon, j'ai dit, c'est pas normal ça, c'est quoi ? Parce que je commence à comprendre, il y a des choses ici à Aulnay, ça ne va pas du tout. Ça ne marche pas. Bon, jusqu'à 79... Oui, 79, on a rentré dans le syndicat, 80, les années 80. J'étais syndiqué à CGT clandestin. Le mec, malheureusement, qu'il m'a syndiqué, il m'a mouchardé chez le personnel. J'étais convoqué, il m'a dit « Ah bon, maintenant vous venez pour faire la politique. Vous êtes des polisarios, vous êtes des communistes, vous avez le cheval, ils ont retourné la tête, tu viens pour faire travail pour travailler ou tu viens faire la politique ? » J'ai dit non, je suis un salarié, le syndicat ça existe, pourquoi ? J'ai pas le droit de syndicat. Ben là, il m'a dit, vous avez payé très cher.
Thèse numéro 4. La grève conteste la spécialisation de la politique. La grève conteste la définition de la politique comme étant l'affaire de spécialistes ayant des titres à gouverner. Comme les gouttières de Besançon, depuis mai 2007, en portent l'inscription, la grève est la réappropriation de la politique par l'ignorant. L'ignorant est celui qui n'a pas de titre à gouverner. Or, la condition pour qu'un gouvernement soit politique, c'est qu'il soit fondé sur l'absence de titre à gouverner. La grève dit « Je ne suis pas spécialiste de la politique, je n'ai aucun titre à gouverner, mais je veux décider des conditions de ma vie, je veux décider des conditions de mon travail, avec tous ceux avec qui je vis, avec tous ceux avec qui je travaille. » La grève est le même scandale que la démocratie. Celui-ci étant, la politique est l'affaire de celui qui n'a pas de titre à gouverner.
Ça me fout mal au crâne quand je les entends parler, parce que c'est vrai, tout ce qu'il dit c'est beau. C'est malheureusement, on parle de quoi depuis tout à l'heure? On parle de fric, de bourse, d'action, et l'être humain dans tout ça, il est où? Il est où l'être humain? On parle pas d'amour, on parle pas d'humanité, on parle pas de fraternité, de partage. La solution, elle est là. Et je crois que, monsieur Attali, dans vos thèmes, il y en avait 7. Moi, il y en a qu'un qui m'inspire depuis 7 mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a 7 mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout, on en a marre de ça, on n'en peut plus de ça. On veut, on n'a plus confiance en vous, on veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple, les salariés de ce monde, les êtres humains qui ont un cœur, qui ont des tripes, ils ont envie de se battre pour leur prochain, ils en ont marre d'entendre des gens et de voir des gens se battre que pour le fric, le fric, le fric. On n'entend parler que de ça, de milliards, mais je comprends même pas ce que vous dites. Alors, les milliards, je sais même pas ce que ça représente. Xavier, je demande 1500 euros pour vivre, pour donner à bouffer à ma famille. C'est tout ce que je demande. Alors, je ne demande pas des milliards.
Thèse numéro 5. La grève et l'abolition de la séparation. La politique, comme affaire de spécialiste, est abstraite car elle accomplit la séparation entre État et société civile. Elle s'approprie l'État et rejette la société civile et le travail hors d'elle. Or, si l'on réduit la politique à l'État, alors tout ce qui s'y passe ne peut plus être qu'abstrait, ne peut plus être qu'idéologie, et ne concerne plus alors la réalité de la société qui est sa base. La politique, au niveau de l'État, parce qu'elle fait l'abstraction de la réalité, n'est dès lors qu'illusion. La grève dit « Le travail, c'est la politique, c'est le travail. » Elle abolit donc la séparation. Corollaire de la thèse numéro 5. La grève est la contestation de la limite entre public et privé. La délimitation entre les deux sphères est l'enjeu même de la grève. C'est que le pouvoir a pour but de rejeter le travail hors de la politique, dans le social. Là, il est soumis aux contraintes naturelles des lois économiques, et donc aux lois de la gestion. Celle-là même qui s'applique au privé, au foyer. Il faut que le patron soit un père, et non un politique. Car il faut que le patron puisse se retrancher derrière la nécessité de l'économie pour justifier ce que, politiquement, rien ne pourrait justifier. Que des hommes soient, par d'autres, gérés comme ressources humaines. Quand une grève éclate, la réaction du pouvoir étant de bien maintenir la séparation, on s'adresse à la grève en ces mots. Mais que vient faire la politique dans le lieu de travail? La politique n'a rien à voir avec le travail. Pour la politique, si vraiment vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez qu'à aller voter la prochaine fois. Nous respectons votre opinion, exprimez-la dans l'urne. Pendant ce temps, les journalistes, ou schmock, parlent de mouvement social pour en contester le caractère politique. Ainsi, la séparation est maintenue entre la politique et le social, lieu de l'économie, de la gestion et de l'adaptation aux lois de la nature. La grève, au contraire, dit « Qu'y a-t-il de plus politique que l'organisation du travail ?» La grève dit « La vraie politique, c'est le travail et son organisation. » La politique des spécialistes répond « Non. Le travail, c'est de l'économie, c'est de la nature. Les conditions de travail, c'est la gestion à partir du donné naturel, économique. » La grève dit « Non. Ce que vous décrivez là, monsieur, n'est pas la politique, mais sa mort. » Sa déchéance en gestion. Ce que vous dites là, monsieur, est idéologique. L'idéologie caractérise en effet, dans son sens premier, un discours consistant à faire passer ce qui a lieu au niveau de l'État pour la politique véritable. De manière à ce qu'on n'aille pas chercher la politique ailleurs. De manière à ce qu'on n'aille pas chercher plus loin, c'est-à-dire tout près, dans le réel, le quotidien, de l'organisation du travail. La crainte de l'État face à la grève est bien la suivante. Pourvu que ces ignorants, autres noms des grévistes, ne s'aperçoivent pas que, moi, l'État, je suis abstrait, détaché du réel. Pourvu qu'ils ne s'aperçoivent pas que la politique, c'est eux, et que je ne suis qu'un peu de brume égaillée dessus, pour en maintenir l'ordre et l'illusion de l'ordre, la justice et l'illusion de la justice, pourvu qu'ils ne voient pas.
Je pense que tu es une de celles qu'on voit le plus souvent. J'aimerais savoir combien tu as d'amis qui participent aussi activement que toi.
Je ne contrôle pas, mais les femmes, j'ai des copines. Ouais. Eh ben, les femmes, c'est, justement, on n'en parle pas assez. On dit toujours les travailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Parce que chez Lip, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part. Hein. Bon, alors, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. On a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on se plaît à le nommer, effectivement, qui est un homme, mais les femmes participent dans toutes les commissions, les femmes font un très gros travail. Les meetings, les femmes prennent la parole, les femmes organisent, les femmes, je sais pas, il y a des lettres ou des tracts à taper, c'est souvent les femmes, donc elles participent, et non pas en obéissant en mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire. C'est essentiel.
Dans la vie quotidienne, comment vous êtes organisée pour pouvoir être disponible avec les enfants et tout ça?
Eh bien, moi, je n'ai pas d'enfants, mais je me demande comment font celles qui ont des enfants. Elles doivent se faire aider parce que chez moi, c'est épouvantable en ce moment. Il y a du bazar partout. Avant, j'étais une femme très organisée, très soignée. Et j'aimerais qu'on voit l'appartement, il est dévasté. On ne peut pas faire autrement. Il y a des journaux partout, des tracts partout. On essaye de classer, on n'a pas le temps. On court, on suit, on vient là. On n'a pas le temps de finir les vaisselles. On se lave un chemisier en vitesse, une robe pour pouvoir remettre le lendemain. Je suis jamais à jour, quoi.
Ça a quoi comme importance?
Je sais pas, c'est une nouvelle vie, quoi. Moi, ça, de temps en temps, je prends la minute de réfléchir, puis je me dis, dire que j'aurais jamais supporté ça avant, mais maintenant, ça n'a pas d'importance. Je me demande jusqu'à quel point on n'était pas quand même des petits bourgeois à l'esprit étroit. Hein. C'est encore possible. Finalement, peu à peu, et moi, je vois, par exemple, j'aurais pas reçu n'importe qui chez moi avant. J'étais pas bêcheuse, mais un peu comme ça, un peu méfiante. Puis maintenant, il y a des gars, des filles qui couchent chez moi, il y en passe, des amis à eux qui prennent un casse-croûte là, qui s'en vont, j'ai totalement confiance.
Thèse numéro 7. La grève est naissance d'un groupe, sortie de la masse et affirmation de l'individu. Il suffit de voir ce qui fait retour de vie sociale dans un immeuble soudainement privé d'électricité pour imaginer ce que pourrait devenir la vie dans une ville privée de tout. La grève crée les conditions de la privation d'électricité, puis de tout. De la grève naît un groupe. Le groupe est l'exact opposé de la masse. La masse est ce qui est incapable de grève. Le terme de masse s'applique seulement à des gens qui, soit du fait de leur seul nombre, soit par indifférence, soit pour ces deux raisons, ne peuvent s'intégrer dans aucune organisation fondée sur l'intérêt commun, qu'il s'agisse de partis politiques, de conseils municipaux, d'organisations professionnelles ou de syndicats. Les masses existent en puissance dans tous les pays et constituent la majorité de ces vastes couches de gens neutres et politiquement indifférents qui n'adhèrent jamais à un parti et votent rarement. Ce qui caractérisa l'essor du mouvement nazi en Allemagne et des mouvements communistes en Europe après 1930, c'est qu'ils recrutèrent leurs adhérents dans cette masse de gens apparemment indifférents. Par la grève se finit l'indifférence de masse. Dans la grève, personne ni rien n'est plus indifférent.
Moi, j'aimerais te demander aussi si les contacts entre vous, tu vois, entre l'ouvrière du même atelier ou d'ateliers différents, s'est resserré. Si vous allez continuer à vous voir après la grève, à vous revoir, à vous organiser pour les enfants, pour les gardes, pour tout ça.
De toute façon, il y a des relations nouvelles, oui.
Vous ne voyez pas tellement en dehors des ateliers.
Des gens ont sympathisé, des gens qui ne se connaissaient pas, justement, parce qu'ils étaient bloqués sur une machine dans un atelier où ils ne pouvaient pas en sortir. Ils allaient manger avec ceux de leur atelier et le soir, ils sortent, précipitent dans les autobus ou dans leur voiture et ils partent. Alors il n'y avait pas de contact, mais dès le début des organisations, des commissions, il n'y avait plus de techniciens, de balayeurs, d'âmes qui font les paquets ou de secrétaires. C'était tous la même chose.
Est-ce que ça vous est possible de recommencer de travailler comme avant avec les contremaîtres tels qu'ils sont faits et les cadres tels qu'ils ne se sont pas mis en grève?
Et le ménage à faire sans poussière.
Alors attends, je réponds à une question avant. Travailler comme avant, oui, on retravaillera. Moi, je n'ai jamais assez mon travail et puis... Mais, enfin, je ne me suis jamais trop laissé marcher dessus quand même. Hein. Je n'ai déjà pas le tempérament à me laisser tout dire, tout faire. Mais
en groupe.
Ah ben, travailler en groupe.
Non, en groupe, se laisser faire. Est-ce encore possible?
De toute façon, chez Elip, je crois qu'on se laissera pas mal. Hein. On travaillera parce qu'on aime notre travail, notre métier, et puis parce qu'on sait bien qu'il faut travailler pour vivre. Il n'y a pas de miracle. Si on veut gagner de l'argent, il faut quand même qu'on fournisse un certain travail. Mais il ne faudra pas de brimade. Hein. Je crois qu'on ne supportera aucune brimade. Hein.
Alors, est-ce que, sachant ça ou le prévoyant, les patrons ne vont pas essayer de vous disperser? Est-ce que pour eux, le démantèlement ne devient pas vital?
C'est ce qu'ils essayent de faire, mais on ne l'acceptera pas. On le comprend trop bien. On ne comprend même plus que Charbonnel, après des mois, continue à parler de 3 et 4 sociétés. Ça n'a pas de sens. Il n'a rien compris.
Bien trop bien.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il ferait bien de venir un petit peu ici, puis de vivre parmi nous incognito quelques jours, puis peut-être qu'il comprendrait.
Est-ce qu'il en est capable?
Non. De toute façon, il n'a qu'à se mettre une barbiche, des lunettes noires, on sait jamais.
Thèse numéro 8. La grève est une remontée des yeux depuis le sol, où ils étaient maintenus, vers l'horizon où l'orgueil désormais les porte. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Simone Veil. Corollaire de la thèse numéro 8. Du point de vue essentiel de l'étonnement, la grève est la situation normale, non l'exception. Car, comme dit Reich, l'étonnant n'est pas que des gens volent, que d'autres fassent grève, mais plutôt que des affamés ne volent pas toujours et que les exploités ne fassent pas toujours grève. Cet étonnement est celui des Indiens à la cour d'Henri II. Secondement, ils avaient remarqué qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de privilèges, et que leur moitié mendiait à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté. Et ils trouvaient étrange la façon dont ces moitiés nécessiteuses pouvaient supporter une telle injustice, sans prendre les autres à la gorge ou mettre le feu à leur maison.
J'ai marre de tous ces gens qui pensent, parce que eux c'est des élites, qu'on est tous des cons, qu'on n'est pas capable, que les gens de 15 ans ou 16 ans ils sont pas capables de voir. Les gamins de 15 ans ou 16 ans, ils vivent tous dans des couples avec des parents qui en crèvent au boulot, qui se font chier pour payer leur fin de mois, des frères, des sœurs qui sont au chômage depuis des années. Ces gosses-là, vous pensez franchement qu'ils sont pas capables de voir la réalité? Nous, ce système, de dire que les gens sont manipulés. Mais moi aussi, je l'ai entendu pendant mon conflit chez Continental. On nous a accusés d'être manipulés par l'extrême gauche. Ah, on est manipulé. Parce que, messieurs, vous, vous méprisez les gens qui sont en face de vous. Parce que vous pensez qu'ils sont pas capables de se défendre, de relever la tête. Et c'est ça qui a fait chier. Pourquoi j'ai pas été sauvé par le, par Wörth? Pourquoi il a refusé mon licenciement? Pour la simple et bonne raison. C'est qu'on a montré un exemple. On a montré que la classe ouvrière, elle était capable de relever la tête et d'aller au combat et de gagner face à des multinationales et face à l'État. Oh. Et ça, ça vous fait tous chier. Oh. Et ça, moi, j'en suis fier. Oui, monsieur.
Thèse numéro 10. La grève et la joie. Si la grève était un moyen, la joie ne serait que la conséquence des résultats obtenus. Or, dans une grève, lorsque celle-ci n'est pas d'emblée réduite au rang d'un moyen par les déclarations et, revendications des syndicats, la joie précède les résultats. Elle est contemporaine de la grève. Elle est présente d'emblée. Elle demeure tant que la grève est vivante et ne déchoit pas. La joie est le premier critère de la grève véritable. Inversement, quand les syndicats et groupes politiques, portant leur regard sur des actions qu'ils n'ont pas commandées, déclarent « ils se font plaisir », entendant par là « ils desservent le mouvement, ils font passer leur plaisir pris comme fin avant la rationalité du moyen », ils commettent une erreur considérable, ils séparent l'action et la joie. Ce n'est pas tant, dès lors, qu'ils s'interdisent la joie, mais ils ne la voient qu'à l'horizon de leur action méticuleuse, horizon qu'ils appellent « révolution », et à quoi ils sacrifient le présent, les actions présentes et la joie de l'action présente. Or, la joie est l'action elle-même, non une conséquence éventuelle de l'action. La grève n'est pas une promesse de joie, mais la joie. Se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendamment des revendications. Cette grève en elle-même est une joie pure, une joie sans mélange. Oui, une joie. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé il y a quelques mois. Joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation d'un ouvrier qui garde la porte. Joie de trouver tant de sourires. Joie de parcourir librement les ateliers où on était rivés sur la machine. Joie d'entendre, au lieu du fracas impitoyable des machines, de la musique, des chants et des rires. Joie de vivre, parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine.
Qui va se passer? Tu pourras retravailler comme avant?
Je sais pas.
Ah, j'ose pas.
Avec le travail.
Moi, j'ose pas y penser.
Je sais pas. Si nos cadres, si les 3e collège avaient suivi, avaient été un peu courageux, oui, on aurait pu retravailler comme avant, parce que
il y a certains.
Enfin, pas comme avant, peut-être pas dans les mêmes conditions. Mais on aurait pu.
Pas comme avant, parce qu'on a découvert quelque chose.
Non, ça peut pas être.
Ben, une ambiance de travail absolument exaltante, quelque chose.
On peut pas être que des missionnaires, on peut travailler.
Je venais à l'usine, je dormais toute la journée, enfin je faisais ça parce que je pouvais pas faire autrement. Et puis maintenant, quand il y a une demi-journée que je suis pas là, bah, je reviens. Samedi matin...
On aime travailler maintenant.
Samedi, j'avais pris la décision de ne pas venir. Puis alors, cette histoire de sabotage de la déclaration de Mercey. Alors, j'ai écouté la radio jusqu'à midi. Quand on a dit que les CGT, la délégation CGT n'était pas venue rejoindre M. Giraud au Frontel, j'ai fait ouf et je suis radiné à l'usine.
Oui, on ne peut pas s'empêcher. Ça a été quelque chose de sensationnel. Hein. De toute façon, le jour où on a remis en route l'usine, c'était à l'unanimité. C'était merveilleux. On est encore parvenu, même maintenant. Il y a une solidarité, on a une vie merveilleuse. Il faut reconnaître que c'est sensationnel en ce moment. On sent qu'on fait quelque chose, aussi pour tous les travailleurs de France, puis peut-être du monde, ça va plus loin. Alors, question de solidarité, je ne sais pas, on s'aime bien, vraiment, entre nous. On sent qu'on est au même combat, quoi. C'est formidable.
Thèse numéro 16, la grève et la tarasque. Jacques Rancière explique que la démocratie est nécessairement un objet de haine. Le gouvernement n'importe qui est voué à la haine interminable de tous ceux qui ont à présenter des titres au gouvernement des hommes, naissance, richesse ou science. Or, la grève est la démocratie. Donc, la grève est détestée.
Il y a plusieurs, vous avez critiqué très fort et la radio et la télévision qui donnaient une information que vous estimiez fausse.
Oui.
Bon, dans quel but cette information est-elle fausse selon vous?
Déjà, tout au long de la lutte, on a remarqué que la télévision tronquait les déclarations des ouvriers.
Pourquoi?
Je ne sais pas que vous dire, par exemple, pour faire croire à autre chose, voilà.
Dans quel intérêt?
Pour minimiser peut-être, et déjà au début, par exemple, je vous donne un petit exemple. Un jour, il y avait une fille qui a été questionnée et qui disait, on lui posait la question, êtes-vous fatiguée? Alors elle a répondu, oh oui, ça commence à faire, mais pour une lutte pareille, je crois que ça vaut la peine. Voilà ce qu'elle a dit. Et à la télévision, on a fait passer, oh oui, ça commence à faire, terminé.
Oui, oui.
Alors ça veut dire quoi? Qu'elle était découragée? C'est pas vrai, cette fille n'est pas découragée, elle est toujours là.
Oui.
C'est une fille très courageuse, on la voit partout, elle va dans les voyages, elle a travaillé pour le Larzac, c'est une fille sensationnelle. Et on a fait passer à la télévision un truc, oh oui, il y en a marre. Eh bien non, il n'y en avait pas marre.
La fatigue.
Elle n'avait pas marre de la lutte.
La fatigue, oui, mais le découragement,
oui.
Jamais.
Voilà, exactement. Elle était peut-être fatiguée ce jour-là, mais elle a bien dit, mais ça vaut la peine. Et ça, on ne l'a pas fait passer, cette phrase-là. Et ça, c'est une petite chose parmi tant d'autres. On tronque, on coupe les phrases, et ça ne ressemble plus à ce que ça veut dire. Voilà. Alors déjà ça, on essaye de minimiser, de nous faire croire qu'on est fatigué. Voilà, 3 mois qu'on essaye de nous faire croire qu'on est fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on a l'air fatigué?
Vous avez l'air en pleine forme.
Ben, on y est tous. Peut-être qu'on vit sur nos nerfs, mais on peut tenir encore très longtemps. Puis on sait se dégager de temps en temps, une journée, deux journées, parce qu'il y a les autres qui sont là, et on travaille par roulement, de façon à revenir.
Je suis douce comme l'eau, et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps. Oh,
Les extraits qui étaient lus sont extraits d'un ouvrage de l'Institut de démobilisation qui s'appelle « Thèse sur le concept de grève » et qui sera présenté aux tanneries le 25 janvier. On vous invite vivement à venir si ça vous a interpellé.
Ouais.
Et vous pouvez retrouver en intégralité les bouts audio qu'on a passés. Ce sont des extraits de Carole Roussopoulos, de ses films sur les LIP, de Xavier Mathieu dans ses diverses interventions à la télévision, et de M. Barak, qui était un des ouvriers de PSA et qu'on retrouve dans « Comme des lions » de Françoise Davis.
Le mercredi 25, j'en profite, il y aura donc à 18h la discussion sur le test de concept de grève. Et puis il y a une bouffe après cette discussion-là et la présentation après d'un film. La projection d'un film qui s'appelle « Le bois dont les rêves sont faits », qui est sur 20 hectares de zones franches que sont le bois de Vincennes dans Paris. Voilà. Et avec un espèce de reportage et d'interview sur toutes les personnes qui fréquentent ce bois, autant ceux qui l'habitent, qui le squattent, que ceux qui y viennent travailler dans des travaux illégaux et compagnie, ou voilà, des joggers, etc. Voilà.
Pour terminer, on voulait aussi vous lire la fin de la lettre ouverte à propos de la maison de la grève de Milan, qui avait constitué l'introduction de notre émission et qui fait, à notre avis, une bonne transition par rapport au reste du monde du travail, ou plutôt aux modifications du travail tel qu'on le connaît actuellement. Donc je vous lis ça. Dans le vécu quotidien, de nombreuses fissures s'ouvrent et se referment, des moments de grève diffus dans lesquels nous prenons l'avantage sur la métropole. Des comportements spontanés que la police identifie et isole comme des formes irrégulières, illicites, illégales. Se reproduire et s'isoler dans un rôle spécifique, être étudiant, être travailleur. En refusant ça, la grève prend la forme de désertion. Ne pas payer le ticket, sécher l'école, se mettre en arrêt maladie, prendre la marchandise, couvrir celui qui l'a prise. La grève est centrale dans chaque acte qui se révèle contre la métropole. Les fissures ouvertes doivent tarder le plus possible à se refermer. Possiblement jamais. Nous détestons ce qui produit ce monde. Nous détestons le fait que nous voyons désormais tout le monde comme produit. C'est pourquoi la grève métropolitaine est à celui qui refuse de se définir à partir de son rôle à l'intérieur du rapport de production. Il n'y a plus rien à revendiquer, il n'y a plus rien à critiquer, il n'y a plus rien à réprimer aux patrons et aux politiciens. Faire la grève doit de nouveau être considéré comme un acte positif, comme l'invention d'un temps nôtre, au-delà du temps historique. Comme le retour de ce que le travail suspend toujours, le déploiement de notre propre activité, de notre propre et essentielle inaction. On vous dit au revoir, on vous retrouve la semaine prochaine à 16h et vous pouvez retrouver tous les matériaux dans tvnr.noblogs.org. Voilà.